Ne les laissez pas lire.
Être et savoir. Louise Touret.
Et ne les laissez pas lire, c'est le titre d'une exposition présentée à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand. Cette exposition est en accès libre et raconte l'histoire de la censure des publications pour la jeunesse. Publications qui amusent, distraient, cultivent et éduquent les enfants et qui parfois donc choquent les adultes. Parce qu'il parlait de la guerre, de la politique, de violence, de sexualité, de la mort, parce qu'il parlait de la liberté ou tout simplement du corps, des livres, albums, bandes dessinées furent déconseillées ou interdits aux enfants et parfois avec fracas dans des écoles et des bibliothèques municipales. Aujourd'hui, ce sont des pétitions qui circulent pour empêcher la réimpression ou diffusion de livres jugés racistes, sexistes et des polémiques resurgissent très régulièrement. Nous allons en parler avec des auteurs, en l'occurrence Agnès Rosenstiel, un éditeur, Thierry Magnier, un spécialiste de la censure et deux bibliothécaires. Nos invités nous rappelleront ce qui a fait débat depuis la loi sur les publications destinées à la jeunesse, loi de 1949, l'occasion de mesurer l'évolution du regard sur la littérature jeunesse qui est aussi, au fond, un regard sur l'enfance. C'est le toujours jeune Philippe Baudouin qui réalise cette émission. Avril Ventura en est la chargée de production. Et c'est Julien Calvas qui en assure la prise de son aujourd'hui. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, de la Chine maoïste à la Bourgogne où il a élu domicile. Souvenir sensible d'une enfance rêveuse avec le peintre Yan Pei Ming. Ne les laissez pas lire, c'est une exposition assez modeste, présentée et à la BNF, elle est gratuite. Elle est très dense aussi, cette exposition. Bonjour Marine Planche.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de cette expo, donc qui court jusqu'au 1er décembre prochain. Vous êtes conservatrice au Centre National pour la Littérature Jeunesse de la BNF. Donc le titre, ne les laissez pas lire, c'est en écho à celui d'un livre, d'un manifeste en fait, qui s'appelait « Laissez-les lire », que publiait Geneviève Pat, une autre bibliothécaire, une militante de la lecture pour tous. C'était en 1976 et on a retrouvé une archive de France Culture.
Je pense qu'il faut faire confiance à l'enfant et ne pas vouloir à tout prix que le livre serve de façon explicite, de façon absolument évidente, un projet éducatif. Parce que la lecture de l'enfant, ça commence par l'enfant et par le plaisir qu'il peut avoir à lire. J'ai toujours eu un peu ce sentiment que dans l'acte éducatif, l'adulte avait peut-être quelquefois tendance à vouloir trop être didactique, enfin d'une façon un peu lourde, un peu envahissante, et que l'enfant effrayé risquait de s'éloigner du plaisir de lire. Alors, il me semble que là aussi, c'est un petit peu dommage. Il faut pas oublier que le livre, c'est une œuvre d'art, c'est une création, et qu'on ne peut pas la réduire à un simple énoncé, un simple sujet.
Marine Planche, cette exposition de la BNF, c'est aussi une forme d'hommage à Geneviève Pat pour vous?
Alors, c'est sûr que le choix du titre, il est un écho à ce livre de Geneviève Pat, « Laissez-les lire », qui était un manifeste, comme vous l'avez dit, et qui a marqué au moins une génération, voire plusieurs, de bibliothécaires, qui est un livre important sur cette idée de l'importance de la lecture des enfants et qu'est-ce que ça veut dire. Elle insiste beaucoup, là, dans l'extrait qu'on a entendu, sur cette question du plaisir de lire, qui est effectivement un des credos de l'institution dans laquelle je travaille aujourd'hui, le CNLJ, qui est l'héritier de cette joie par les livres créée par Geneviève Pat à l'origine, donc qui avait ouvert à la fois une bibliothèque pour les enfants à Clamart, puis créé une revue sur les livres pour enfants, qui est aujourd'hui la revue des livres pour enfants, des formations pour les bibliothécaires, donc c'était tout ça. Et c'est en gros ce qu'on continue à faire aujourd'hui.
Nous voulions vraiment parler des bibliothèques et des bibliothécaires aujourd'hui. Hélène Valotto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice, responsable du pôle jeunesse et patrimoine de la médiathèque Françoise Sagan. On parle beaucoup de Françoise Sagan en ce moment, mais là c'est juste la médiathèque qui est dans le 10e arrondissement de Paris. Vous occupez d'un fonds qui s'appelle...
Le fonds patrimonial Heure Joyeuse. Donc on est aussi dans cette idée de joie par les livres, même si nous, l'origine de cette bibliothèque remonte à 1924.
Et pour vous aussi, Geneviève Patt est une référence, c'est quelqu'un qui, par sa parole, a marqué les bibliothécaires et la manière qu'on a d'aborder dans les bibliothèques la lecture et sa diffusion.
Oui, bien sûr, on n'a plus de formation spécifique à la littérature jeunesse comme on pouvait avoir par le passé au niveau de ce qu'on appelait le CAFB jeunesse, mais les livres de Geneviève Patt continuent à être cités, montrés, utilisés dans les formations métiers du livre et figurent dans les bonnes places, dans les fonds de référence sur la littérature de jeunesse.
Voilà, la bibliothèque, c'est aussi l'endroit où on transmet le livre. C'est avec l'école, la grande institution qui permet aujourd'hui de diffuser les livres et puis, on espère, l'amour de la littérature. J'invite également Bernard Joubert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de la censure, auteur notamment du dictionnaire des livres et journaux interdits. C'était au Cercle de la librairie en 2011. On peut toujours trouver ce livre. Alors, je vais commencer en vous faisant écouter une archive. Je n'ai pas choisi l'année au hasard. C'est en 1948 que s'exprimait donc André Badevant au micro de la RTF. C'était juste avant l'ORTF. Il prend position pour la protection de la jeunesse, à la fois dans les publications jeunesse, mais aussi adultes.
Je suis bien persuadé que la lecture de la presse en général n'est pas ce qui peut se faire de mieux de la part des enfants. Et que les parents feraient mieux... quelquefois de mettre leur journal de côté. Car s'il est un principe essentiel en France, qui est celui de la liberté de la presse, et s'il faut faire tout, et même payer assez cher pour qu'il soit maintenu, et il faut quand même que l'éducation par les parents continue à se faire. Et un premier élément de cette éducation par les parents consiste à choisir les lectures des enfants.
Mais vous pensez que même les magazines pour enfants peuvent être dangereux ?
Oh, sans aucun doute, sans aucun doute. Et la situation est bien empirée depuis la guerre. Déjà avant la guerre, de bons esprits s'étaient préoccupés d'essayer d'endiguer un peu une évolution du journal d'enfant qui, au lieu de faire appel simplement à l'imagination, au goût de l'aventure, qui est tout à fait normal chez l'enfant, et y mêler toute une fantaisie qui peut être très différente d'une lecture comme des journaux sérieux qui sont ceux de la famille ou des revues sérieuses, avait dépassé les bornes. Et maintenant, alors les bornes, je ne sais pas où elles peuvent être encore transportées, elles sont extrêmement loin.
Passer les bornes, il n'y a plus de limite, si vous voulez bien me prêter l'expression. Donc André Badevant du ministère de l'Éducation s'exprime en 1948, soit quelques mois avant une loi très importante pour les publications sur la jeunesse, celle de 1949. Bernard Joubert, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit ce texte ?
Ben, la loi de 1949, elle est très longue, elle a une quinzaine d'articles.
Alors nous résumez.
Vous la résumez. c'est une loi au titre un peu mensonger, mais c'est pas volontaire, donc qui est sur les publications destinées à la jeunesse. Et donc effectivement, pour partie, elle concerne les publications pour la jeunesse, mais comme tout est lisible par les enfants, et d'ailleurs, Badevant le mentionnait, il disait que les enfants lisent la presse aussi, ben, finalement, toute l'édition française peut être concernée par cette loi. Et on peut dire que depuis 1949, il y a eu à peu près plus de 4000 publications pour adultes qui ont fait l'objet d'arrêtés d'interdiction du ministère de l'Intérieur. C'était du temps d'Harakiri Hebdo.
Ah oui, Harakiri.
À la mort du général de Gaulle, le journal avait titré « Balle tragique à Colombey, un mort » et avait été interdit par le ministère de l'Intérieur de l'époque au nom de la protection de la jeunesse en utilisant cette loi de 1949. Et dès la semaine suivante, la même équipe avait continué le même journal qui s'était appelé « Charlie Hebdo ».
Exactement. Donc cette loi, elle est encore aujourd'hui toujours valable, utilisée.
Est-ce qu'on y fait souvent recours ? Rajeunie en 2011, mais elle est véritablement aujourd'hui mise au placard. Enfin, on n'examine plus et on n'interdit plus de publication depuis très longtemps, depuis des années, de publication pour adultes. Et pour ce qui est des publications pour la jeunesse, du temps où s'exprimait ce monsieur Badevant, les années 40-50, on examinait pendant une journée entière des publications avec une trentaine de personnes qui les feuilletaient, qui les lisaient, qui rendaient des avis. Aujourd'hui, les réunions durent une heure tous les trois mois. C'est une quinzaine de personnes qui se réunissent et il n'y a plus rien à signaler. Tout se passe très vite, très rapidement. On peut dire que la loi est conservée un petit peu parce que on craint qu'en la supprimant, ça crée une sorte de vide juridique qui éventuellement amènerait une loi peut-être plus coercitive.
Alors plus rien à signaler, mais tout de même, et on y reviendra dans l'émission, des cas de polémique avec des pétitions, et puis tout de même quelques livres qui ont posé problème. On pense à Thierry Magnier, qui est beaucoup cité dans l'exposition de la BNF. Il est éditeur et avec la maison d'édition qui porte son nom, il a eu donc maille à partir sur en particulier un livre, Le dictionnaire fou du corps, et pour ses images explicites, son significatif coup pris. Il a été banni de certaines bibliothèques. Je lui ai demandé déjà ce que ça faisait quand on était éditeur de voir comme ça son travail remis en cause.
La première chose qu'on ressent en tant qu'éditeur, et en pensant qu'on fait bien notre boulot parce qu'on est quand même des professionnels, on n'a pas envie de faire peur aux enfants, de faire peur aux parents, de faire peur aux instituts ou quoi que ce soit, on est presque blessé. On se dit mais pourquoi ? On se pose la question, mais pourquoi on nous tient comme ça, comme si on était le Satan de la littérature jeunesse? Et c'est vrai que ça, c'est blessant. Et qui, en plus, les jugements sont terribles, parce que les jugements sont quelquefois juste des choses qui ont été prises à part. C'est-à-dire que on parle après du bouquin en disant, mais qu'est-ce qui vous a vraiment choqué? Vous avez des réponses, ah, mais je l'ai pas lu, c'est ce qu'on m'a dit.
Cela revient souvent de la part des éditeurs et Thierry Magnier réfléchit alors lui et aussi les autres éditeurs sur ces critiques dont la littérature jeunesse peut aujourd'hui faire l'objet.
Ils sont reprochés aux adultes d'être amnésiques, c'est-à-dire qu'ils ont totalement oublié qu'est-ce qu'ils recherchaient à cette époque-là. Et quand on est enfant, on est curieux de tout, on veut absorber, on veut essayer de trouver les choses qui nous renseignent, qui nous construisent. Et ça, ce sont des livres qui permettent de le faire. On n'a pas envie de montrer aux enfants un monde de bisounours. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est ça. Et si on commence à les mettre dans du coton et à faire des produits, je dis bien produits, et puis des livres aseptisés, qu'est-ce que ça va former comme adolescent? Qu'est-ce que ça va former comme adulte? C'est dramatique pour moi. Le plus gros risque aujourd'hui, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un auteur se pose maintenant la question, est-ce que j'ai le droit de leur dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Et l'éditeur commence aussi à se faire une autocensure. Alors ça, c'est ce que j'essaie de dire aux auteurs et les éditeurs avec qui je travaille. Je dis, surtout, non, non, allez-y, faites votre livre comme vous l'entendez, comme vous avez envie de le partager. Mais n'essayez pas encore d'aseptiser. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, on est quelques éditeurs à vouloir dire simplement les choses. Par exemple, un truc absolument incroyable dans À table, que j'ai fait aussi avec Cathy Coupry et Antonin Louchard, où j'ai eu des critiques qu'à un moment, il y a un poulet, une photographie d'un poulet rôti dont il reste plus que la carcasse. On m'a dit, mais c'est horrible de montrer ça à un enfant. C'est dans un livre, on peut pas le montrer. À table, il n'y a aucun souci. La plupart des Français mangent leur poulet rôti le dimanche midi. Ça pose aucun problème de voir la carcasse à la fin du repas. Vous savez, on arrive à un moment où toutes les choses, on ne sait plus quoi, où ça s'arrête. On va peut-être bientôt m'agresser parce que dans un roman, on mange de la viande. Il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est... Les gens n'ont pas compris qu'un livre, c'est de la fiction pure et que dans une fiction, on peut faire tout ce qu'on veut.
On n'a rien contre les végétariens, hein, mais, mais est-ce que la question contemporaine n'est pas aussi celle des représentations?
Si, bien sûr que c'est la représentation qui fait que... Parce que le fait d'en parler, ça pose pas de problème, mais dès qu'il y a une image, on est dans un monde d'images, il faut quand même savoir les décrypter. Sinon, c'est un danger incroyable de pas pouvoir décrypter une image. Moi, je suis président du bureau au syndicat pour la jeunesse, syndicat national de l'édition. Et c'est vrai que on parle avec mes confrères de tous ces sujets, mais je pense que c'est pour nous, pour beaucoup d'éditeurs, on est dans cet esprit de résistance. Il faut pas, faut résister à tout ça et continuer à faire notre travail comme on désire le faire, comme on désire le proposer. On a une liberté d'expression, il faut continuer, il faut montrer que cette littérature, elle est importante parce que qu'est-ce qu'on fait nous dans ce métier avec les tout petits, même les bébés, quand on fait des livres pour les bébés, on habitue déjà la lecture, et cette lecture, c'est quand même ces enfants qui seront des adultes qui vont lire plus tard tout ce qu'il y a de plus difficile et délicat en littérature adulte.
Bernard Joubert, spécialiste de la censure, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais juste souligner une chose. Thierry Magnier parlait de jugement qu'il recevait. Il ne s'agit pas de décision judiciaire. Hein. Il n'est pas poursuivi au tribunal, il n'y a pas un jugement par un juge. Ce sont simplement des avis, des courriers qu'il reçoit, des avis de commission, c'est tout.
Et après, on peut interdire un livre localement, dans des bibliothèques, puisque certains maires l'ont fait, ont banni.
Bien sûr, oui, mais le mot jugement pouvait induire en erreur en pensant qu'il y avait effectivement des éditeurs qui étaient traduits en justice. Ce n'est pas le cas.
Alors, ce que raconte aussi Thierry Magnier, c'est le risque de l'autocensure. Elle est intéressante, cette question de l'autocensure, parce que finalement, bien sûr, les auteurs et les illustrateurs réfléchissent à leurs responsabilités. C'est ce dont m'a parlé Agnès Rosenstiel en marge de l'exposition. Donc, je suis allée la rencontrer chez elle. Agnès Rosenstiel, c'est une autrice qui a dessiné Mimi Cracra, déjà. C'est un personnage très connu, qui était très 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 célèbre dans les années 80. Elle a aussi dessiné des filles qui jouent aussi à montrer ce qu'il y a sous leur robe, qui essayent de voir aussi ce qu'il y a dans la culotte de leurs camarades garçons. C'est son livre Les filles qui a été republié en 2018 chez La Ville Brûle.
J'ai des lectrices et des lecteurs qui ont vos âges et qui sont adorables avec moi. Moi, je vois la responsabilité que ça représente pour moi. Mon Dieu, d'avoir forgé l'imaginaire des petits. Et parce que moi, je me rappelle Babar quand j'étais petite. Je me rappelle même Tintin, mais je me rappelle surtout le livre des métiers. Ah, je m'étais vautrée là-dedans. C'est des choses qu'on n'oublie jamais, les livres qu'on a quand on est 4 ans, 5 ans. Comme ça. C'est inoubliable. Donc, moi, je fournis ces images, mais c'est une responsabilité monstrueuse. C'est pour ça que je fais, non pas de la censure, mais je fais attention.
Finalement, dans ce qui peut aujourd'hui choquer, être remis en cause et parfois censuré, en tout cas écarté des bibliothèques, il est beaucoup question des dessins, des illustrations.
Là, par exemple, j'ai deux exemples de censure absolument dingue. Mais là, vraiment de la censure, de la vraie. La naissance a été traduite aux États-Unis et on m'a demandé expressément que sur la page, alors que tous mes dessins sont très stylisés, on ne reconnaît personne, le moment où, de profil, on voit le bébé qui est pris dans les bras de sa mère, qui le retire de son corps, de profil. Donc on ne voit rien du tout d'autre qu'un bébé dans les bras de sa mère. La mère est nue, mais on ne voit rien puisqu'elle est de profil. Eh bien, ils ont exigé que je dessine un docteur. Non, mais j'étais morte de rire. C'est pas possible. Les Américains, je crois qu'ils auraient eu un procès, peut-être s'il n'y avait pas de docteur. Tout simplement, inimaginable. Je trouve ça d'un ridicule achevé. Et alors, confirmation, parce que 20 ans après, on traduit Mimi Cracra à New York. Et elle est en slip de bain, et elle est dans les vagues, bon, elle rigole. Et elle n'a pas de haut à son bikini. Parce qu'elle a 4 ans, et donc elle se patouille dans la mer. Et, non, c'est pas possible, là. Faut lui mettre un haut, Madame Rosenstiel, c'est pas possible, ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais, là? J'obtempère illico, j'ai mis les crétins, non, mais c'est pas possible. Et alors, je dessine un petit boléro en haut, et on le passe en rouge, etc. Et ben voilà, c'est plus une époque, c'est un autre monde, carrément.
Est-ce que finalement, la littérature jeunesse, les albums jeunesse, ne sont pas un des derniers territoires des censeurs de la censure?
Pour des mauvaises raisons, oui. Parce que des censeurs, aujourd'hui, on empêche des crétins de dire des horreurs. Ça, je trouve ça plutôt... de publier. Ils peuvent toujours dire des horreurs à qui ils veulent dans la rue, ou chez eux. Mais la censure en soi, ça dépend qui elle choque. Mais les enfants ne sont pas choqués, c'est les parents qui ne veulent pas qu'on montre ou qu'on dise Moi, j'ai pas de problème avec ça. Aucun. Si quelque chose choque, je veux bien l'enlever, je m'en fiche un peu. J'ai absolument pas besoin de choquer. Ça m'intéresse pas du tout en soi. J'ai envie de dire ce que je vois, ce que je ressens, ce qui me semble vrai, drôle, ce qui est drôle, ce qui est intéressant. Alors on me dit, là, il y a un doigt de pied qui dépasse. Oh, ben, je vous l'enlève. Pff.
Tout ce que vous dites, ça illustre un énorme décalage adulte, enfant. Et comme si aussi les adultes ne pouvaient pas comprendre le regard des enfants, ni même convoquer l'enfant qu'ils ont été, l'enfant lecteur.
Oui, les parents se sentent tellement responsables. Ils sont coupables de toute façon. Vous savez bien, comme moi, que tous les parents sont coupables. Les parents tout faux, les mères aussi d'ailleurs. Les mères, c'est même presque pire. Donc, comme on a tout faux déjà, à partir du moment où le bébé est né, on en fait trop, on n'en fait pas assez. Les mères en font trop, ensuite, pas assez, non, ensuite elles en font trop. C'est épouvantable. Alors, évidemment, ils sont là, les pauvres parents, à trembler pour leur mioche. C'est plutôt, oui, de la franchise et ne pas avoir peur des mots, peur des corps, peur de ce qui se passe, peur de ce qui arrive, ça me paraît primordial pour les petites, penser que le monde est vaste et beau quand même.
Agnès Rosenstiel, qui illustre des livres pour enfants, qui fait des albums, qui invente des personnages et qui nous parle donc de ce regard des adultes. Est-ce que les adultes vont voir les bibliothécaires, Hélène Vallotto, avec des livres à la main pour parfois s'indigner ou s'interroger avec les bibliothécaires sur des contenus qui leur sembleraient inappropriés?
Alors oui, bien sûr, ça arrive. Après, on a la chance en ce moment, ils viennent plus souvent nous voir pour se plaindre des écrans que des livres. Donc ça occulte un peu certaines discussions qui pouvaient être plus vives par le passé. Mais oui, ça arrive toujours. Après, en tant que bibliothèque, on fait... J'ai bien aimé quand Thierry Magnier tout à l'heure parlait d'autocensure, parce que nous aussi, parfois, on s'interroge sur notre capacité à nous auto-censurer quand on fait ce qu'on appelle des comités de veille ou qu'on analyse la production et qu'on choisit, on prend pas. Bien sûr, on a une mission de pluridisciplinarité, d'être représentatif de tous les champs du savoir et de pas occulter des aspects de la vie, que ce soit la sexualité ou des sujets plus graves comme la mort. Mais c'est vrai qu'on fait attention quand même à ce qu'on met entre les mains et que dans certains cadres d'accueil, on va écarter certains livres peut-être des fois, ou au contraire, les choisir pour montrer qu'il faut pas en avoir peur. Ça dépend un peu de la relation qu'on peut avoir avec les enseignants qui nous amènent des enfants ou dans des accueils individuels où on peut aller un petit peu plus loin en fonction de l'adulte qu'on a en face de nous.
Alors Agnès Rosenstiel raconte aussi que quand elle a sorti pour la première fois un album comme Les Filles, où il est question de montrer son sexe, enfin son zizi, hein, moi je dis plutôt ça quand on parle des petits-enfants, finalement ça n'a pas beaucoup choqué dans les années 70, mais c'est plutôt dans les années 80 que cet album a pu poser question, qu'on lui en a fait part. Et quand on va voir l'exposition à la BNF, on voit que oui, il y a bien eu un tournant en 1985 avec un livre, Écrire pour nuire, signé Marie-Claude Monchaud. Et finalement, c'est un tournant, 1985. Bernard Joubert.
Oui, c'était un pamphlet à petite diffusion, mais qui a engendré des éditos dans le Figaro, dans Minute, voilà. Et qui était principalement dirigé contre les bibliothèques municipales et puis les éditeurs pour la jeunesse, Écrit pour nuire, et qui s'est expliqué dès la quatrième page de couverture, pensait qu'il y avait vraiment une sorte de complot, enfin de volonté dans l'édition pour la jeunesse de détruire la société en s'attaquant aux enfants, en pervertissant les enfants.
Avec des attaques parfois sur des livres auxquels on n'aurait pas pensé, ce livre Mon ami Frédéric qui raconte une histoire dans l'Allemagne nazie et qui est dénoncée comme étant trop triste et trop pessimiste. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire avec vous, Marine Planche?
Mon ami Frédéric, c'est un livre qui était effectivement pas mal étudié dans les classes. à l'époque, et qui est un livre qui raconte la guerre de point de vue d'un petit garçon et qui se finit mal. Et c'est ce que reproche Marie-Claude Monchaud dans ce livre écrit pour nuire, c'est effectivement qu'il ne faut pas désespérer les enfants et donc pas montrer des choses trop tristes. Elle dit, voilà, on peut, pensez pas que je souhaite qu'on ne parle pas des camps de concentration ou de la Shoah, mais là vraiment, c'est trop.
Et toujours le sexe et la représentation du corps qui reste choquant. Parfois, pour certains, même des élus, il y a une affaire avec Jean-François Copé sur un livre qui s'appelle « Tous à poil », on s'en souvient peut-être, parce que c'est relativement récent. Bernard Joubert.
Oui, c'était dans une allocution publique, Copé avait brandi ce livre qui était un petit tirage, on va dire, de 4 ou 5 000 exemplaires et qui, évidemment, par la suite, est devenu un best-seller à plusieurs dizaines de milliers de ventes. C'était, je crois, Thierry Magnier qui l'avait édité.
Oui. Avec donc la maîtresse à poil, les dames de service de l'école, le grand-père et
le président directeur général.
Voilà. Donc tout le monde tout nu. C'est vrai que c'est assez inhabituel. Ce qui est aussi parfois problématique, c'est aux yeux de certains, c'est que les livres ne sont pas seulement lus par des individus, mais par des groupes, en classe ou dans les bibliothèques. En fait, c'est Agnès Rosenstiel aussi là qui m'en a parlé.
Les rééditions des filles, qui est parue à peu près après 75 ou 16. À l'époque, pas de vague, rien, mais rien. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que les mœurs étaient différentes, à savoir, personne n'aurait eu l'idée d'en faire une lecture publique en bibliothèque. Et à ce moment-là, j'imagine moi ce qu'elle a dû faire cette bibliothécaire qui m'a fait venir en me disant, vous savez, les enfants ont été choqués. Bah évidemment, elle a devant elle 15 gosses et elle leur dit montre-toi et toi touche et etc. Alors, ça devient, si c'est dit devant 15 personnes, mais c'est infernal. Mes livres sont c'est des livres intimes. Alors avec sa mère, on le lit avec sa mère ou avec sa copine. Et là, ça c'est marrant, c'est bienvenu. Mais aujourd'hui, lecture publique. Bon, alors, ces mœurs-là font que les gosses me répondent, les gosses devant lesquels auxquels j'ai été confrontée. Oh, madame, mais vous parlez de nos parties intimes, quand même, c'est pas bien. Alors, j'étais complètement défoncée, là. Quoi, c'est deux enfants qui parlent entre eux et qui apprennent à se connaître. Et alors, évidemment, si on colle ça sur la place publique, si tout le monde se met, il y a 15 personnes autour qui regardent alors qu'elle soulève sa jupe et lui sa culotte, évidemment ça ne va pas.
Hélène Valotto, sur ces conditions finalement de la lecture qui ne sont pas comprises de la même façon par tous, un auteur ou une autrice peut penser s'adresser à un individu alors qu'en groupe tout change.
Oui, c'est sûr. C'est la force des bibliothèques de pouvoir faire des accueils individuels et éventuellement accompagnés ou pas, parce qu'en fait les enfants ils ont pas vraiment besoin de nous. Quand il y a quelque chose qui les choque ou qui les ennuie, ils ferment le livre et puis voilà, ou ils l'empruntent pas et finalement ils savent très bien se protéger tout seuls. C'est plus aussi parce que non seulement il y a des contextes de lecture en groupe, mais il y a le regard de l'adulte qui est à côté, et finalement c'est peut-être parfois aussi le regard de papa maman par-dessus l'épaule qui peut les gêner, et ça on le voit assez facilement. On a de la chance d'avoir des automates de prêt, donc ça dépend un peu comment ils arrivent à gérer ça et leurs cartes, mais c'est plus à ce moment-là que ça peut aussi poser problème.
Le jugement de l'adulte, mais est-ce que pour vous, un enfant devrait aller à la bibliothèque tout seul ?
Ah non, d'ailleurs, on demande aux parents d'être quand même un peu présents, et de toute façon, il y a une autorisation parentale pour les plus petits. C'est aussi pour des questions de gestion de l'espace, de la sécurité, etc. Mais c'est vrai que quand on entend encore emprunte des vrais livres parce que l'enfant a des bandes dessinées ou des revues, d'ailleurs, ça renvoie à la critique sur la presse qu'on avait au début de l'émission. Ça renvoie à ce genre de questions, et sur des sujets comme la sexualité. On les voit aussi aller se cacher derrière les rayonnages pour regarder ça tranquille, et ça ricane et ça va pas plus loin que ça, et c'est aussi une autre forme de lecture intime. On a besoin de partager un petit peu, mais pas forcément avec toute la classe.
Vous avez parlé de la bande dessinée parce que
dans la littérature jeunesse, évidemment, il y a beaucoup de bandes dessinées. Alors, adultes aussi, hein, mais aujourd'hui, on parle de la jeunesse. Bernard Joubert, c'est souvent la bande dessinée qui est visée depuis, si on se réfère à ce qui s'est passé depuis 49, dans les années 50-60, c'était même presque uniquement la bande dessinée qui était critiquée hein, par ceux qui voulaient interdire ou empêcher des livres d'être diffusés, livres ou revues.
Oui, c'était vraiment leur cible. La loi de 1949 est une loi contre la bande dessinée qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque. Le terme n'existait pas. On parlait des illustrés. Et c'était les journaux de bande dessinée. C'était Tarzan, c'était le journal de Mickey, voilà, qui était attaqué. Et puis également beaucoup d'albums de bande dessinée belge. Vous savez, la bande dessinée beaucoup franco-belge en France. Et donc, ils venaient de Belgique, édité par les éditions Dupuis, le journal Spirou, édité par les éditions du Lombard et Casterman, le journal de Tintin. Et ces éditeurs, pour faire entrer leurs albums en France, devaient requérir une autorisation d'importation d'une commission qui existe toujours, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse. Et celle-ci a, dans les années 50, 60 et 70, ça s'est arrêté en 1978, refusé l'importation de classiques de la bande dessinée comme Black et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, comme Alix de Jacques Martin, comme Buck Danny, des bandes dessinées qui aujourd'hui ne posent plus problème à personne. Enfin,
et aujourd'hui, font l'objet d'expositions à Paris, au musée des arts et métiers. Il y a eu une exposition Black et Mortimer. Je ne sais même pas si elle est terminée. On essaiera de mettre la référence sur le site. Un décalage incroyable. Et c'est vrai que dans ces bandes dessinées, ce qui était critiqué aussi, c'est parfois un contenu politique ou perçu comme politique, des BD pro-américaines, anti-américaines, parfois un discours anti-colonialiste. Cette dimension politique, elle est restée très forte très longtemps. Marine Planche.
Oui, c'est un des aspects effectivement qui peut être regardé par les censeurs de la bande dessinée au sens large. Et par rapport à ce que citait Bernard Joubert tout de suite, on a le cas d'un album de Buck Danny qui s'appelle Ciel de Corée, se passe pendant la guerre de Corée et donc qui fait l'objet d'une interdiction d'importation du fait de la commission. Donc précisément en avançant le fait qu'il ne doit pas y avoir de politique dans un album à destination de la jeunesse.
Et d'un point de vue historique, c'est vrai que cette méfiance vis-à-vis des illustrés, les premières bibliothécaires de l'heure joyeuse qui étaient très regardantes et qui avaient leur rôle de médiatrice très à cœur, mais aussi parce que la littérature jeunesse commençait à se développer et à devenir plus populaire, les bandes dessinées n'avaient pas droit de citer à l'heure joyeuse. Ça a duré très très longtemps et d'ailleurs c'est aujourd'hui le seul domaine complètement exclu du champ de conservation du fonds patrimonial, aussi pour d'autres raisons, je vous rassure, parce que il existe la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême et que pour des raisons de conservation partagées, on a fait le choix de tout envoyer à Angoulême.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Vous avez pas lu Kafka ? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka ? Oh là 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 là. Vous avez pas lu Kafka ? Oh là 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 là. Je me donne un mal de chien, mais je ne comprends pas tout. Je me donne un mal de chien, je n'en viens pas à bout. À cause des musiciens, yeah, yeah, qui jouent près de moi. Je ne peux pas lire ici, je ne le répéterai pas. Je ne peux pas lire ici. C'est bête ça. Je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc, Nino, tu peux pas jouer moins fort. Faut que je me cultive. Et dis donc, Nino, Kafka, c'est pas Astérix. Moins fort, Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. L'univers kafkaïen. Oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier mois que je passerai là. Je ne veux plus vivre ici, je ne resterai pas, car si je reste ici, oh yes, ça oui je le vois, car si je reste ici, je ne me cultiverai pas, je ne peux pas lire ici, car c'est très calé Kafka.
Une chanson de Suzanne Gabriello, choisie par Philippe Baudouin. Alors, je voudrais parler d'autres polémiques, parce qu'on ne peut plus dire que les livres sont interdits. Mais tout de même, des pétitions circulent, pétitions qui dénoncent des livres. Alors, je vais vous donner un exemple, un livre de Michel Simès qui s'appelle « Quand ça va, ça va, quand ça va pas, leur corps expliqué aux enfants et aux parents », édition Clochette 2017. Ce livre a déclenché une pétition contre lui, dont je vous lis un extrait, pétition publiée sur change.org. Nous observons que la page des explications pour les zizi fait 11 lignes, alors que la page des zézettes fait 5 lignes, un sous-produit en quelque sorte. Nous vous prions de bien vouloir amender votre document au plus tôt afin que les petites filles y soient à égalité avec les petits garçons, signés des parents et des adultes en colère. Marine Planche, c'est ça, aujourd'hui, ça relate, cet extrait relate un peu le type de polémique qui se font jour aujourd'hui sur les publications jeunesse.
Oui, effectivement, je pense que c'est assez symptomatique des sujets sur lesquels il y a une attention et une sensibilité particulièrement forte depuis 2017, en fait, depuis MeToo, sur la question du sexisme, où on voit qu'un certain nombre d'adultes sont en alerte sur le sujet partout dans la société, et notamment du côté des livres qui s'adressent aux enfants, où on considère qu'il y a un enjeu particulièrement important, un enjeu d'éducation, en fait. Donc oui, c'est assez typique, je pense, cet exemple-là, il me semble.
Et plusieurs exemples sont développés dans l'exposition. Le fait que des gens qui veulent interdire ou limiter la diffusion d'ouvrages jeunesse se perçoivent eux-mêmes comme progressistes, est-ce que c'est propre à l'époque ou est-ce que finalement ça a toujours existé, Bernard Joubert ?
Non, c'est propre à l'époque, oui. Et tout à l'heure, nous entendions Agnès Rosenstiel, et on peut constater dans les rééditions de ces livres qui sont faites actuellement, enfin qui ont été faites l'année dernière par La Ville Brûle, qu'elle-même a modifié les textes, enfin à la demande de l'éditeur, il y a une précision, hein, c'est-à-dire qu'il était question à l'époque de parents qui étaient un couple qui était formé d'un père et d'une mère, et aujourd'hui, dans les dialogues, il est dit qu'il peut y avoir d'autres formes de famille, voilà. Ce qui laisse penser que la première édition, finalement, comportait une certaine homophobie. Peut-être qu'Agnès Rosenstiel critiquerait sa première édition en disant « Oui, bah, elle était un petit peu homophobe puisque je ne parlais pas des parents de même sexe. » Et peut-être que dans 10 ans, d'ailleurs, elle va peut-être encore modifier les nouvelles éditions parce que l'édition d'aujourd'hui ne sera pas conforme à la pensée de future parce que, je ne sais pas, la petite fille est peut-être un peu trop agressive envers le garçon. Enfin, moi, je la trouve un petit peu misandre, elle insulte le garçon. Peut-être que dans 10 ans, on sera sensible à ça.
Et d'un autre côté, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est aussi la réédition de livres anciens. On pense au Petit conte nègre pour enfants blancs de Blaise Cendrars, dont le titre choque aujourd'hui, Marine Planche.
Oui, c'est un des exemples qu'on a cité aussi. Donc, il y a eu une réédition il y a quelques années, qui est une coédition Albin Michel Bibliothèque Nationale de ce titre-là. Et là, ce qui choque évidemment, c'est la présence du mot nègre dans le titre, un mot qui est devenu insupportable à notre époque, à peu près. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir comment Bah, bien évidemment, les éditeurs, au moment de cette réédition, se sont posés la question. Et sur la quatrième de couverture du livre, il y a une explication, une volonté de justification, d'expliquer que, bien évidemment, ce n'est pas un livre qui est raciste dans son contenu, mais qui se plaçait au moment de sa création dans le contexte de la glorification de la négritude, dans le sens où Aimé Césaire a pu la prononcer. N'empêche que voilà, on n'a pas forcément ces éléments de contexte-là, et le mot peut interpeller, voire choquer aujourd'hui.
Hélène Valotto, est-ce que vous pourriez présenter ce livre sur un présentoir de la bibliothèque et qu'il soit comme ça visible à tout le monde sans les explications, parce que tout le monde ne va pas lire le quatrième de couverture?
Alors il se trouve que oui, on l'a fait récemment puisqu'il a été illustré par Jacqueline Duhem et qu'il y a eu des grosses rétrospectives à la bibliothèque Fornet et à la médiathèque François Sagan autour de Jacqueline Duhem. On n'a pas eu de soucis sur celui-ci. En revanche, j'ai en mémoire une exposition autour du livre de coloriage. Et même avec une mise en contexte, il y avait toute une série sur le coloriage documentaire. Et forcément, pendant la période de la colonisation, vous pouviez colorier la carte de l'Algérie avec l'avancée des troupes françaises. Et puis les drapeaux, les uniformes militaires, c'est quand même très tentant de colorier, de faire les couleurs, etc., des décorations. Et on a eu beaucoup de problèmes aussi parce qu'il y avait des cartes postales du genre « Nestlé chez les nègres ». On a eu beaucoup de problèmes avec cette histoire de mots nègres, et même avec les cartels qui expliquaient que c'était des livres publiés dans un contexte particulier, qui avaient un certain âge aujourd'hui, et qu'aujourd'hui on n'emploierait plus ce mot-là. On a eu pas mal de commentaires.
Sur ce qui peut être reçu comme une violence, Marine Planche.
Je voulais juste, pour continuer un petit peu sur cette question-là, évoquer un autre exemple qu'on a montré aussi dans l'exposition, ce qui n'est pas un exemple français, mais un exemple allemand. De la réédition également, aussi un cas de réédition, hein, on voit bien que c'est un des moments où ces questions-là peuvent se poser, d'un livre qui s'appelle La petite sorcière, qui est un classique de la littérature pour la jeunesse en Allemagne, qui date de 1957, et qui a été réédité en 2013 en Allemagne par l'éditeur Tinemann, et qui a fait l'objet d'une petite polémique en Allemagne, parce que l'éditeur a choisi, en accord avec l'auteur, qui était toujours vivant, de supprimer justement le mot nègre qui était présent à quelques endroits du texte et qu'il jugeait voilà nécessaire de remplacer. Et certains ont protesté en disant c'est inacceptable qu'on retouche comme ça un texte, c'est du politiquement correct, etc. Et hein, le président d'une fédération d'enseignants annonçant que si on part par là, on va jeter une bonne partie de la littérature mondiale. Et en écho, j'ai voulu aussi citer la lettre d'une petite fille de 9 ans qui écrit au journal Die Zeit pour dire « Moi, je suis café au lait et je trouve ignoble l'idée qu'on puisse conserver ce mot-là dans un livre pour les enfants. » Et voilà, pour une fois, c'est une parole d'enfant que je trouve intéressante à entendre aussi.
Et toutes ces polémiques sont très, très, très bien racontées dans cette exposition qui permet de voir aussi parfois que ces questions sont toujours complètement vivantes et débattues. Elles sont vivantes, vous parliez de l'Allemagne, dans plein de pays et de manière tout à fait différente. Alors, ce dimanche 22 septembre commence la Banned Books Week aux États-Unis. On ne pouvait pas faire une émission plus d'actualité, enfin, si on a des auditeurs aux États-Unis. Parlez-nous de cette semaine, Marine Planche.
Alors ça, c'est une manifestation qui est organisée depuis 1982 par l'Association des bibliothécaires américains, et qui est donc pendant une semaine une opération de promotion de la liberté de lire et de lutte contre les volontés de contrôle ou de censure sur les livres. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort aux États-Unis, avec tout un matériel promotionnel, des affiches, etc., dont une qu'on a reproduit dans l'exposition, avec une petite fille qui a le poing levé derrière un livre. Et donc l'idée, voilà, c'est de lire des livres.
Il y a beaucoup de pression sur les bibliothèques aux États-Unis, ou du moins dans certains États. D'autres pays sont concernés. On pense au Brésil. On a eu l'occasion d'en parler dans cette émission, où le président actuel, Bolsonaro, a fait campagne avec un livre de ZEP dans la main, qui est un livre qui était un petit manuel d'éducation sexuelle, et encore pas forcément destiné à tous les enfants. En Pologne, des prêtres ont brûlé des livres tels que Twilight, des histoires de vampires, ou Harry Potter, Marine Planche.
Oui, alors c'était le 31 mars 2019, donc c'est l'exemple le plus récent qu'on a dans l'exposition. C'était au moment où on finissait les sélections, donc où j'ai vu arriver dans les nouvelles cette information-là. Ce sont des prêtres à côté de Gdansk, en Pologne, qui ont demandé à leurs fidèles, une paroisse un peu traditionnaliste quand même, d'apporter des objets ou des livres liés à la magie ou à l'occultisme, et qui ont dressé à l'issue de la cérémonie un petit bûcher donc dans lequel il y avait un masque africain, il y avait des figurines Hello Kitty, et donc il y avait des exemplaires de Twilight et de Harry Potter brûlés devant les enfants de cœur. Et ils ont publié ces photographies sur la page Facebook de leur fondation SMS des Cieux.
Totalement effrayant. Est-ce que finalement cette méfiance envers les publications jeunesse, alors on revient en France, hein, parce que là en Pologne c'est vraiment très spécial, mais si on parle de la France ou des États-Unis ou même du Brésil, ce n'est pas aussi dire en creux que ces publications sont importantes et que on apprend énormément de choses en lisant des livres, que la transmission du savoir est opérée aussi par la lecture et dans les bibliothèques. Hélène Valotto.
Oui, alors on a parlé de tous les cas où on peut avoir ou des parents ou des enseignants pas forcément contents de ce qu'ils trouvent dans les rayons, mais on pourrait parler, et ce serait peut-être plus juste le meilleur augure, voilà, et ça amènerait peut-être plus le sourire de toutes les fois aussi où les enfants nous ramènent des pépites et nous font partager leur joie parce que ils se sont reconnus dans tel héros et que ça leur a permis d'aller plus loin ou de dépasser un chagrin personnel. Et puis il y a aussi des adultes qui viennent nous remercier d'avoir débloqué des situations avec des nuits blanches à n'en plus finir et les yeux complètement en bas du visage, et que grâce à un livre, parce qu'on leur avait conseillé Max et les Maxi Monstres, ça a réglé la situation de colère à répétition. Donc sans aller jusqu'au livre médicament, c'est vrai qu'on a aussi une demande des adultes et des enfants parfois sur des sujets un peu difficiles ou pour esquisser des discussions, et où on retrouve ce rapport un peu intime de dialogue parent-enfant, où le livre est un prétexte mais permet de surmonter des difficultés, ou d'échanger des très bons moments, de se rappeler des souvenirs, de se raconter son enfance, ce genre de choses.
Bernard Joubert, est-ce que ces histoires de censure, de tentatives d'interdiction et de polémique à chaque fois racontent aussi les obsessions de l'époque?
Oui, mais je crois pas que ça montre que la littérature jeunesse est particulièrement importante aux yeux de ceux qui l'attaquent. Je pense qu'ils voient aussi là-dedans une cible facile. Parce que s'ils s'attaquaient à des romans pour adultes, on leur dirait mêlez-vous de ce qui vous regarde, nous c'est nos lectures, on fait ce qu'on veut. Tandis que la protection de la jeunesse, ils viennent pour protéger les enfants. Qui est contre qu'on protège les enfants? Enfin, bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils se fassent écraser, et peut-être qu'il ne faut pas qu'ils lisent n'importe quoi. Donc c'est vraiment pour eux un combat relativement facile à mener, puis ça permet d'obtenir deux choses. C'est une façon d'instrumentaliser la protection de la jeunesse, je pense, dans beaucoup de cas.
C'est une façon de s'assurer une forme de visibilité aussi.
Aussi, oui, 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 oui.
Si on pense à la campagne de Jair Bolsonaro au Brésil, par exemple, est-ce que le fait de se saisir de publications pour la jeunesse, selon vous, est un bon moyen aussi pour mobiliser l'opinion ?
Mais comme je vous le disais, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait, sur le principe de protéger la jeunesse. Après, faut se mettre d'accord sur contre quoi on veut la protéger. Alors donc, pour certains, il faut la protéger d'une petite fille qui n'a qu'un bas de maillot de bain, et il faut mettre un haut de maillot de bain. Plus rarement, on veut les protéger contre, par exemple, la bêtise religieuse. C'est très rare, ça. Alors que pourtant, on pourrait considérer, hein, si j'étais membre d'une commission de surveillance, on m'a pas demandé d'en faire partie, mais peut-être que je voudrais interdire certains passages de la Bible ou du catéchisme.
Comme vous y allez. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, la Bible disponible dans les bibliothèques d'ailleurs. Est-ce que vous avez des versions de la Bible jeunesse aussi, Hélène Valotto? L'exposition « Ne les laissez pas lire, polémique et livres pour enfants » se tient jusqu'au 1er décembre 2019 à la BNF. Je rappelle qu'elle est gratuite, et puis j'en profite pour indiquer qu'à partir du 22 octobre, on pourra la visiter avec l'exposition Tolkien qui s'ouvrira juste à côté. On peut dire aussi qu'à la librairie de la BNF, il y a une très belle sélection d'ouvrages, comme ceux édités par Thierry Magnier, mais pas seulement, ou ceux d'Agnès Rosen style. À propos de Thierry Magnier, il faut dire qu'il sort une nouvelle collection, L'Ardeur, avec des livres qui vont parler de sexe aux adolescents, lire, oser, fantasmer. Voilà le slogan de cette collection. Et nous, la semaine prochaine, on change totalement de sujet. Nous allons parler de l'orthophonie. Pourquoi est-il devenu si indispensable pour
tant d'enfants de consulter un orthophoniste et que cela dit-il des apprentissages. Mais pour aujourd'hui, on se quitte dans un instant avec la leçon de choses de Sophie Bobert. La leçon de choses avec le peintre Yan Peiming. Son exposition en dialogue avec Courbet au musée Courbet s'achève bientôt. Avec Sophie Bobert, le peintre revient sur ses jeunes années en Chine.
À l'époque, à Shanghai, il n'y a que les petites maisons. Ouais, sauf deux ou trois quartiers avec un peu d'immeubles, 1900. Mais en même temps, chaque été, je suis à la campagne chez ma grand-mère. Voilà, donc je connais un peu de campagne en été. Je peignais déjà pratiquement tous les jours.
À quoi elles ressemblaient vos premières peintures, Yan Peiming ?
Oh, c'est les peintures réalistes, des portraits, nature morte, des paysages, tout ça. Rien, c'est beaucoup plus comme un travail de tous les peintres qui sont obligés de passer par là.
Est-il exact donc que votre mère était une personne très dévouée, qui avait économisé pendant plusieurs mois pour vous offrir des pinceaux de calligraphie ?
Ma mère, c'est une personne extraordinaire. Donc, je viens de perdre, il y a exactement l'année dernière, 9 juillet. Voilà, que pour moi, c'est une tristesse, tout ça. Ma mère, elle est toujours à côté de moi. Toujours, toujours. Elle ne connaît pas l'art, mais elle m'a toujours soutenu. Donc aujourd'hui, que je fais le portrait, que je rends hommage à ma mère, j'ai eu une seule image de ma mère jeune.
Mais ni votre mère, ni votre père n'étaient artistes même.
Non, tous les deux, ils ne sont pas du tout artistes.
Ça vient d'où, ça ?
J'ai toujours envie de trouver un autre langage que les paroles. Peintre, pour moi, ça correspond parfaitement parce que je l'aime beaucoup. travailler seul.
Vous étiez un enfant timide ?
Oui, je pense, ouais, très très timide. J'ai toujours été un peu réservé, un peu timide, tout ça.
Lors de votre exposition 2013 à la galerie Tadeusz Ropak, il y avait cette image d'un enfant agenouillé, main tendue, victime de la guerre. Et quelques années auparavant, au centre Ullens de Pékin, il y avait encore des enfants que vous nous donniez à voir, des enfants victimes de la guerre. Pourquoi est-ce que vous nous montrez toujours l'enfance dans une position si, si fragile, finalement ?
La guerre, l'enfant, il ne contrôle rien. Un enfant à genoux, qui a la main levée, en train de crier. C'est une peinture, il est diptyque. On voit une scène de la guerre. C'est un cri, c'est un hurlement. C'est le drame de notre époque, mais aussi autrefois. Donc la guerre n'est jamais arrêtée. Voilà, donc j'ai envie de le crier.
Pour réparer un petit peu ?
Oh, c'est...
Témoigner ?
Ouais, témoigner plutôt, ouais. Donc je peux pas arrêter la guerre, moi. C'est pas moi qui décide, hein.
Il y a cette autre œuvre, Yan Peiming, actuellement exposée à Ornans, au musée Courbet. Cette autre œuvre qui s'appelle « L'homme blessé de combat », qui a inspiré votre autoportrait. Avez-vous, vous aussi, le sentiment d'avoir été comme un enfant blessé, un enfant dans le combat ?
Oui, je pense. Ouais. Ouais, ça suit au fond de moi que j'ai toujours eu le sentiment que ça suis blessé. Ouais, ouais, ouais.
Blessé par quoi ? Blessé par le pays, par la politique ?
Pas tout. Par l'environnement, par les circonstances, par rapport à notre époque. Donc, j'ai toujours envie de le crier, j'ai toujours envie de l'exprimer.
Vous étiez un enfant timide, rêveur, appliqué sans doute, mais y avait-il aussi cette part de violence ou en tout cas cette force en vous que l'on retrouve dans vos peintures, que ce soit dans vos autoportraits, que ce soit dans la présence de nombreuses peintures qui nous montrent des tigres, des félins
Je l'aime beaucoup, et le tigre, voilà, c'est vraiment un très grand chat, quoi. Très mignon, tout ça, une puissance, tout ça. Non, je pense que c'est triste, un jour, il n'y a plus de tigre. Un jour ou l'autre, il n'y a plus. Hein. Depuis qu'enfance, que j'ai toujours imaginé qu'un jour, que je veux quitter la Chine. Donc, pour moi, la France, c'est un très bon choix. Parce qu'à l'époque, j'ai un oncle, il habitait à Paris. Voilà, donc c'est grâce à lui que je suis venu en France.
C'était quoi pour vous, Paris ?
Paris, c'est la terre pour l'artiste. Il y a combien d'artistes étrangers qui sont venus en France depuis ? Je pense que c'est la terre propice pour l'artiste.
Jamais déçu ?
Jamais déçu, au contraire. Je l'aime beaucoup plus. Oui, je l'aime la France énormément, très profondément. Voilà, que je veux enterrer en France.
Et on se quitte sur ces paroles émouvantes de Yan Peiming. Donc je vous rappelle qu'il est exposé au musée Courbet à Ornans et c'est dans le Doubs. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur France Culture.